Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce microphone dans 5 minutes environ, le magazine de l'économie dont voici quelques titres. Nouveau don de la Banque mondiale à la République démocratique du Congo pour le projet de construction du barrage Inga 3 basse chute.
En fait, nous estimons que quand ce projet sera complètement terminé, à savoir la réalisation de Inga 3 par l'assistance technique, il y aura près de 9 millions d'habitants qui auront accès à l'électricité par rapport à la situation présente.
Le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Eustache Wayoro, nous offrira des précisions. Ouverture de la 28e conférence régionale pour l'Afrique de la FAO et le coût humain et économique de l'immigration illicite fait débat aux États-Unis. Tous ces titres et d'autres seront développés tout à l'heure avec Camille Gros-Didier, mais tout d'abord un bulletin d'information. En République centrafricaine, nouvelle journée de violence aujourd'hui à Bangui. Des tirs à l'arme lourde et légère ont encore secoué plusieurs arrondissements. Certaines sources parlent d'affrontements entre la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, les miliciens anti-Balaka. Le chef de la MISCA, Jean-Marie Michel Mokoko, a assuré aujourd'hui que les anti-Balaka sont désormais considérés comme les ennemis de la force africaine. Patrice Edouard Nguessona, le coordonnateur politique des anti-Balaka, a dit de son côté que son groupe a été attaqué par le contingent burundais avec des SLEKA. L'insécurité est persistante dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 6 localités dans le territoire de Rutshuru ont été vidées de leur population qui fuit les rebelles rwandais des FDLR. Le point avec Omar Kavota, un leader de la société civile à Goma.
C'est notamment Rugarama, Shinda, Mutabo, Rutezo, Karambi et Kitagoma dans les groupements de Busanza, dans le territoire de Rutshuru. Les populations vivent dans leur localité à la suite de l'occupation par celle-ci par les rebelles rwandais des FDLR. Après le retrait des FRDC, les rebelles rwandais avaient investi les localités et ils s'illustrent par des exactions contre les civils. C'est depuis 2 mois que les FRDC s'étaient retirés de ces localités, c'est-à-dire après la débâcle du M23, les FRDC ont été engagés dans d'autres opérations, et notamment les opérations contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu à Beni, à Massissi contre l'APCLS et à Walikale contre d'autres groupes armés, mais aussi à Lubero contre les autres FDLR. Mais de ce côté ici, le groupement était déjà dégarni par les FRDC. Il n'y a donc ni FRDC, ni policiers, ce qui fait que les FDLR ont profité du vide.
Omar Kavota, un leader de la société civile à Goma. Ouverture d'un procès aujourd'hui en Égypte contre les leaders de frères musulmans, Mohamed Badier et près de 700 membres de la confrérie. Ils font face à des accusations multiples, y compris incitation à la violence et au meurtre. La séance a été ajournée au 28 avril quand le verdict et la séance seront annoncés. Les sentences seront annoncées. Les avocats de la défense ont boycotté le procès ce mardi pour protester contre la condamnation à mort hier par le même tribunal de 529 membres des frères musulmans. Barack Obama veut maintenir la pression sur Moscou suite à l'annexion de la Crimée que le président américain et ses alliés qualifient d'illégale. Lionel Gaïma.
Dans une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hollandais à l'issue d'un sommet sur la sécurité nucléaire à La Haye, M. Obama a plaidé à plusieurs reprises en faveur de l'unité de la communauté mondiale sur le dossier ukrainien. Rappelant la décision d'imposer des sanctions à la Russie, le président Obama a mis en garde contre de nouvelles ingérences de Moscou en Ukraine.
There's no expectation that they will be dislodged by force.
Le chef de l'exécutif américain continue d'affirmer qu'il n'existe pas d'option militaire pour libérer la Crimée, mais il espère que les pressions diplomatiques, politiques et économiques indiqueront aux Russes qu'ils ont un prix à payer pour leur violation de l'intégrité de l'Ukraine. En réponse à l'annexion de la Crimée, les pays du G7, les 7 pays les plus industrialisés du monde, ont adopté une position commune en refusant de participer au prochain sommet de Sochi avec la Russie. Ils ont également exclu la Russie du G8. Entre-temps, sur le terrain, les forces russes consolident leur contrôle en Crimée.
À Pékin, les proches en colère des passagers du vol 370 de la Malaysia Airlines, portés disparus depuis le 8 mars, ont manifesté devant l'ambassade malaisienne en temps suspension des opérations de recherche de l'appareil dans l'océan Indien en raison de la mauvaise météo. La Voix de l'Amérique, dans un instant, le magazine économique.
Rémi Grosdidi avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Nouveau don de la Banque mondiale à la République démocratique du Congo pour le projet de construction du barrage Inga 3 basse chute et d'autres centrales hydroélectriques.
En fait, nous estimons que quand ce projet sera complètement terminé, à savoir la réalisation de Inga 3 par l'assistance technique, il y aura près de 9 millions d'habitants qui auront accès à l'électricité par rapport à la situation présente.
Le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Eustache Wayoro, nous offrira des précisions. Ouverture de la 28e conférence régionale pour l'Afrique de la FAO.
Deux choses donc, un grand investissement, la formation de la jeunesse, nos jeunes qui forment environ plus de 50% de la population africaine devraient s'investir en Afrique pour faire de l'agriculture un business, quelque chose de rentable qui peut leur apporter.
Dan Rugabira, représentant de la FAO pour l'Afrique centrale, parlera des entraves à l'essor de l'agriculture en Afrique. Et le coût humain et économique de l'immigration illicite fait débat ici aux États-Unis. Le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé un don de 73,1 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo au titre du projet d'assistance technique au barrage Inga 3, basse chute et d'autres centrales hydroélectriques. Le potentiel hydroélectrique de la RDC est estimé à 100 gigawatts, juste derrière la Chine et la Russie, mais voilà, seulement 2,5% de cette capacité a été développée pour l'instant. À terme, Inga pourra générer une puissance de 40 gigawatts et serait le plus grand site hydroélectrique du monde. Pour plus de précisions, Claire Morin-Gibourg a contacté le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Eustache Wayoro.
Il est important que la RDC tire profit de ses ressources naturelles. Le site de Inga est le plus grand site de production d'électricité au monde, quand il sera mis en valeur. Et c'est un site où la production d'électricité doit être parmi les plus faibles au niveau du coût. Et donc, il n'y avait pas de raison que la Banque mondiale ne s'implique pas dans un tel projet. Mais la Banque mondiale ne fait pas uniquement que Inga. La Banque mondiale est engagée également avec le gouvernement dans d'autres opérations, avec des investissements de taille beaucoup plus faible que ce qui est attendu du côté du projet Inga.
Qu'est-ce que va permettre ce méga-projet Inga 3? Est-ce que le pays va du coup être plus indépendant, énergétiquement parlant?
Disons que les choses vont beaucoup changer quand ce projet sera mis en œuvre. En fait, ce que nous finançons maintenant avec l'accord de notre conseil d'administration, c'est l'assistance technique au développement de Inga. Donc, créer les conditions en ce qui concerne toutes les études pour qu'elles soient en place afin que les opérateurs privés et que la puissance publique puissent mettre en œuvre un projet d'une telle envergure. En fait, il s'agira de produire pour 4800 MW d'électricité. Ce sera le double de la capacité de production actuelle au niveau de la RDC. Et cela devrait changer pour beaucoup la situation de l'accès à l'électricité dans ce pays à la fin de la réalisation de ce projet. En fait, nous estimons que quand ce projet sera complètement terminé, à savoir la réalisation de Inga 3 par l'assistance technique, il y aura près de 9 millions d'habitants qui auront accès à l'électricité par rapport à la situation présente.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les Congolais? Est-ce que, par exemple, Kinshasa pourra ne plus avoir de coupure d'électricité?
En disant que nous avons constaté que actuellement, au niveau de la qualité du service, il y avait des coupures d'électricité pendant 180 jours au-delà de 3 heures. Cela a un impact très important sur l'activité économique. Et nous pensons qu'avec la réalisation de Inga 3, plus les programmes de réhabilitation que nous finançons, car il ne faut pas oublier que la Banque mondiale est engagée pour 1,2 milliard de dollars dans la réhabilitation des ouvrages existants, nous sommes convaincus que la situation sera nettement meilleure. Et il faut également ajouter qu'en ce qui concerne la production minière dans la zone, dans la province du Katanga, ces entreprises minières qui contribuent pour beaucoup à la croissance économique et à la mobilisation des devises, ces entreprises minières seront capables d'accroître leurs capacités de production. Il faut dire que cette année, près de 940 000 tonnes de cuivre ont été produites dans le Katanga et en RDC, plaçant la RDC comme étant le pays numéro un en termes de production de cuivre. Et donc, l'absence d'électricité est un handicap certain pour le secteur minier, pour les populations, pour le commerce et les activités économiques de façon générale. Et nous pensons qu'avec Inga 3, mais avec les autres programmes du gouvernement, pas, car il n'y a pas que Inga 3, il y a le barrage de Zengo 2, il y a Kakobola dans le Bandundu, il y a Katende dans le Kasaï occidental, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont financés par le gouvernement, devraient permettre de changer de manière assez importante la situation de l'accès et de la qualité de l'électricité en RDC.
Alors, vous l'avez dit, hein, Inga 3 sera le plus grand site hydroélectrique du monde. Est-ce que du coup, ça va permettre à la RDC d'exporter de l'électricité ?
Oui, disons que sur les 4800 MW de Inga 3 basse chute, la RDC devrait pouvoir exporter pour 2500 MW d'électricité en Afrique du Sud. Et donc, la présence de l'Afrique du Sud est un élément important qui permet d'assurer la bancabilité de cette opération. En même temps, il est prévu que la population de Kinshasa et du Bas-Congo bénéficie de ce projet à hauteur de 1000 MW d'électricité, ce qui correspondrait à la demande aux environs de 2025, plus la production actuelle. Et il est prévu également d'apporter de l'électricité au secteur minier dans la province du Katanga. Donc, la RDC sera exportatrice d'électricité, donc exportatrice d'une ressource à valeur ajoutée. Et donc, cela participe à la diversification de l'économie de la RDC. Donc, c'est un bon programme pour la RDC, pour les pays voisins et pour la population de Kinshasa, du Bas-Congo et pour l'ensemble des populations de la RDC.
On écoutait le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Eustache Wayoro. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a ouvert lundi sa 28e conférence régionale pour l'Afrique. C'est pour noter que malgré une croissance soutenue, la sécurité alimentaire du continent reste la plus précaire au monde. Les raisons sont multiples, une faible productivité agricole, des revenus ruraux très bas et une malnutrition élevée. La FAO a exhorté les ministres africains à accélérer les investissements à destination des petits exploitants agricoles, en particulier les jeunes et les femmes. Claire Morin-Gibourg a joint Dan Rougabira, le représentant de la FAO pour l'Afrique centrale.
La préoccupation majeure, c'est la sécurité alimentaire en Afrique. Le grand problème pour la sécurité alimentaire en Afrique, c'est le fait qu'il y a très peu d'investissements dans le secteur agricole. Comme vous le savez, l'Afrique, en 2003, avait déclaré que les Africains, les pays africains devraient consacrer au moins 10% de leurs investissements à l'agriculture. Mais on doit malheureusement constater que jusque-là, on en est très très loin. On est peut-être à 2 à 3% de l'investissement dans le secteur agricole. Et l'autre problème, c'est que la jeunesse, les jeunes ne sont pas ou ne sont pas formés à l'agriculture. Vous voyez, dans certains pays, bon nombre d'agriculteurs sont des gens qui ont environ 60-65 ans. Et on ne peut pas imaginer qu'une bonne agriculture, une agriculture rentable, puisse être tenue par les gens de cet âge-là. Il faudrait que la jeunesse soit impliquée. Et deux choses donc, un grand investissement, la formation de la jeunesse, nos jeunes, qui forment environ plus de 50% de la population africaine, devraient s'investir en Afrique pour faire de l'agriculture un business, quelque chose de rentable qui peut leur apporter.
Est-ce que vous pensez que les gouvernements africains accordent suffisamment d'importance à leurs politiques agricoles ?
Je crois qu'il y a une grande mutation dans les politiques africaines. Comme vous le savez, cette année 2014, l'Union africaine l'a consacré à l'agriculture, à la sécurité alimentaire. Et je crois que c'est un impact très, très important. Les gouvernements, dans la plupart des stratégies qu'ils ont préparées, l'agriculture tient une place primordiale. C'est vrai que dans le cadre des investissements, comme je viens de l'indiquer, on est encore loin du compte, mais il y a encore ici et là des choses qu'on retrouve qui font que l'agriculture est un secteur important. Je pense par exemple aux pays comme l'Éthiopie, Je pense aux pays comme le Rwanda où les investissements sont plus de 10% de leur budget. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, par exemple, aux pays comme le Nigeria qui a une croissance dans le secteur de l'agriculture de plus de 6% par an. Je pense aux pays comme le Niger, je pense aussi au Ghana. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même ces pays qui ont fait beaucoup de choses dans l'agriculture et d'autres pays qui sont en train de suivre, sûrement dans très peu de temps, vous verrez que l'Afrique tout entière va se remettre à l'agriculture.
En parlant de progrès effectués, on a vu que certains pays africains avaient réussi à atteindre le premier objectif du développement concernant la faim dans ces pays.
Oui, absolument, absolument. Il y a certains pays qui ont, disons, dans le cadre du premier objectif du millénaire, qui ont réussi à atteindre les objectifs. Je crois que même dans le cadre des objectifs post-2015, vous verrez que plusieurs pays en Afrique vont également figurer dans cette liste des pays qui vont atteindre l'objectif du millénaire 1. Et je crois que c'est ça en fait l'objectif de cette réunion, c'est encore une fois pour que les pays africains renouvellent leur engagement pour la création d'une agriculture, disons, moderne, une agriculture qui répond aux besoins des populations et une agriculture qui produit suffisamment en quantité et en qualité pour le bien des populations.
Dan Rugabira, représentant de la FAO pour l'Afrique centrale. Washington, la voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier, je vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Des dirigeants catholiques et évangéliques ont récemment interpellé le Congrès des États-Unis pour demander aux élus de voter sans délai la réforme de la loi sur l'immigration au nom de la dignité humaine. Mais voilà, certains experts évoquent également l'atout économique que représentent les immigrés. Le point avec Lionel Gaïma.
Le Sénat, à majorité démocrate, a approuvé en juin 2013 un projet de loi ouvrant la voie à une éventuelle naturalisation de quelque 11 millions de sans-papiers aux États-Unis. Mais la Chambre des représentants, à majorité républicaine, n'a pas donné suite au projet. Le coût humain et économique de l'immigration illicite est immense, affirme Guillermo Cantor, analyste à l'Institut Immigration Policy Center.
Ce qu'on oublie parfois, c'est que cela aurait d'énormes avantages économiques pour le pays.
Un argument qui ne convainc pas le sénateur Jeff Sessions, un républicain.
Comment pouvons-nous voter pour un projet de loi qui, selon le bureau du budget du Congrès, Congressional Budget Office, réduira les salaires moyens aux États-Unis pendant 12 ans?
À noter néanmoins que dans un rapport, le CBO a seulement parlé d'une réduction d'un dixième de 1% d'ici 2023, et cela du fait que les salaires perçus par les ouvriers peu qualifiés seraient intégrés dans la moyenne, une fois qu'ils seront régularisés. 10 ans après, montre le calcul du CBO, les salaires augmenteraient d'environ 1,5%, soit plus que ce ne serait le cas en l'absence des réformes. Mais ce n'est pas tout, fait valoir Mark Rosenberg de l'Institut des politiques migratoires, le Migration Policy Institute.
Legalization is probably going to help the US economy.
La régularisation va probablement aider l'économie américaine. Cela va aussi intégrer plus de gens dans le système, donc cela aura probablement un impact fiscal bénéficiaire, les gens payant plus d'impôts. À long terme, cependant, les immigrants illicites qui sont régularisés deviendront également éligibles pour recevoir des services supplémentaires. Donc l'impact budgétaire a des avantages et des inconvénients, explique M. Rosenberg.
Mais pour Marguerite Telfort du Center for Immigration Policy, régulariser les sans-papiers rapportera nettement plus que de les maintenir dans l'ombre.
Si vous considérez que 36% des immigrants souscrivent à au moins un programme d'aide sociale, et si vous considérez combien cela coûte, combien de temps alors pouvons-nous nous permettre de payer? Demande Mme Telfort.
Le taux de chômage était de 6,7% en février aux États-Unis et selon Mme Telford, il faut réduire de moitié le nombre d'immigrants légaux, aujourd'hui chiffré à 1,1 million par an. C'est trop généreux, dit-elle. Mieux vaudrait choisir les candidats à l'immigration plus soigneusement, notamment parmi les lauréats des universités américaines.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du magazine de l'économie, Camille Gros dédié avec vous. Au chapitre de la bonne gouvernance, les parlementaires sénégalais ont adopté vendredi, à l'unanimité, le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Un projet qui avait été évoqué dès l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir en 2012. Il vise notamment à faire la lumière sur les avoirs des hommes politiques avant leur entrée en fonction. Des parlementaires ont reconnu l'importance de ce projet de loi. Le point avec notre correspondante au Sénégal, Dienaba Seydouba.
La déclaration de patrimoine désormais obligatoire pour les décideurs qui gèrent des portefeuilles d'un milliard ou plus. Mais attention, tout le monde n'est pas concerné. Ceux qui sont directement touchés par cette loi, Abdoulatif Koulibaly nous en parle. Il est le ministre de la promotion de la bonne gouvernance.
Les ministres, les dirigeants de l'Assemblée, en particulier le président de l'Assemblée nationale, le quartier de l'Assemblée nationale, également tous ceux qui sont au niveau des régies financières, les comptables publics, les administrateurs de crédit, ordinateurs de dépenses et les administrateurs de recettes. Ou aux autres hauts fonctionnaires de l'État, gérants des deniers sur des opérations portant sur un milliard. Attention, il ne s'agit pas de budget.
Cette loi sur la déclaration du patrimoine traduit le vœu du président Macky Sall. Cela rencontré en centre-ville évolue dans le domaine informatique. Ils estiment que cette loi est venue à son heure.
Moi, je trouve que c'est très bien parce que si quelqu'un occupe de hautes responsabilités, il doit déclarer son patrimoine avant de prendre fonction. À la fin de sa fonction aussi, il doit aussi déclarer son patrimoine. Comme ça, les gens pourront voir s'il a travaillé honnêtement, s'il a gagné son argent honnêtement. C'est pas normal qu'un individu qui est pauvre, après avoir occuper un grand poste, se retrouve avec des milliards. C'est pas normal. Donc il faut qu'il y ait une déclaration de patrimoine.
Ça peut pousser aux personnes de ne pas manger l'argent du contribuable, de ne pas abuser de l'argent du contribuable, de faire une gestion transparente dans leurs fonctions. Donc c'est normal. Mais du côté, comment dirais-je, des particuliers, bon, je pense pas que c'est le cas.
Les parlementaires ont adopté à l'unanimité le projet de loi et parallèlement, ils ont déploré l'absence de certains acteurs nationaux dans le champ d'application du texte. Les Sénégalais interrogés adhèrent à cette vision de transparence dans la gestion des deniers publics et souhaite vivement une application stricte de la loi. Dienaba Seydouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Washington, Camille Gros dédié pour le magazine de l'économie. Le gouvernement togolais veut réduire la cherté de la vie en renonçant aux taxes de douane sur certains produits importés de première nécessité. Cette annonce faite par les autorités togolaises ne séduit ni les consommateurs ni les syndicalistes, explique notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Depuis le 16 janvier dernier, date à laquelle le gouvernement togolais a procédé à l'augmentation du prix des produits pétroliers, le pouvoir d'achat des Togolais s'amenuise au jour le jour. Pour atténuer un tant soit peu l'effet de cette augmentation, le ministère du Commerce a annoncé une mesure d'accompagnement. Bernadette Legezim Balouki, ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé.
La mesure consiste à imposer une réduction de 115% de taxes de douane sur les produits de première nécessité. Si je prends un exemple, le sac de riz de 50 kg qui doit être imposé aux taxes de douane sur une valeur de 12 500, l'État a décidé que ça soit imposé sur une valeur consensuelle de 3 000 pour stabiliser le prix sur le marché.
La mesure annoncée par le gouvernement ne draine pas assez d'enthousiasme à l'Association togolaise des consommateurs. Agouta Aladou, porte-parole de l'ATC.
C'est une bonne chose a priori. Mais dans le même temps, nous sommes un peu perplexes parce que depuis 2008 jusqu'à ce jour, nous constatons sur le terrain que les prix ne cessent que d'augmenter sur ces mêmes produits dont ils disent qu'ils ont fait des détaxes. Vous prenez par exemple le riz. De 2008 à ce jour, le prix du riz a toujours augmenté. Même chose pour l'huile, le sucre et les pâtes alimentaires, les détergents, savons et autres, j'en passe le poisson. C'est la même chose. Donc il faudrait que le gouvernement prenne des mesures qui puissent rendre vraiment effective une telle décision. Il ne suffirait pas de perdre des centaines de milliards parce qu'on veut renoncer au recouvrement de certains droits et taxes. Et dans le même temps, les consommateurs ne ressentent pas la décision du gouvernement dans leur assiette.
La Ligue des consommateurs du Togo, quant à elle, propose une homologation des prix des produits de première nécessité. Emmanuel Sogadi, président de la LCT.
À la Ligue des consommateurs, nous ne sommes pas convaincus de la disposition que le gouvernement prétend prendre.
nous on demanderait à l'État d'homologuer certains prix de certains biens de première nécessité. Par exemple, le sac de riz lorsqu'on achète à Lomé à 1000 francs, qu'on puisse l'acheter également à Dapon à 1000 francs. Parce qu'on ne peut pas permettre à ceux de Lomé d'acheter un riz à 1000 francs et accepter volontairement que ceux de Dapon achètent à 2000 francs. Les détaillants ne vont pas vous dire que l'État diminue la taxe, mais les détaillants vont vous dire puisque le carburant reste toujours cher, il est transporté de Lomé jusqu'à Dapon. Même si l'État a diminué de 15% la taxe douanière, le commerçant ne va vouloir pas réduire ses coûts-là.
Une semaine après cette annonce, les partenaires sociaux se sentent mis à l'écart. Sébastien Tévi, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, CSTT.
Lorsque vous vous retrouvez ensemble dans un cadre tripartite et que vous arrêtez certaines dispositions, vous vous séparez, et quand maintenant vous prenez ces mesures, vous devez en discuter ou en parler à vos partenaires sociaux. Il faudrait quand même que les organisations syndicales soient saisies des mesures concrètes que le gouvernement a. Et en ce moment, nous allons l'analyser et nous ferons le relais pour expliquer aussi à nos mandats, à nos militants, voilà l'effort que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, secrétaire général de la CSTT, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il y a un problème de communication dans ce pays qu'on doit régler absolument.
Le ministère du Commerce prévoit faire prochainement des contrôles sur les marchés pour vérifier l'effectivité de la stabilité des prix. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Washington, Camille Grodidier qui vous accompagne pour cette édition du magazine de l'économie de La Voix de l'Amérique. On enchaîne avec quelques nouvelles de l'actualité économique en compagnie de Michel Joseph.
Eh bien Camille, le Fonds monétaire international a inauguré son 5e centre technique régional d'assistance à l'Afrique, AfriTAC, au Ghana. Ce bureau offrira des services de renforcement des capacités à 6 pays d'Afrique de l'Ouest, précise un communiqué du FMI. Les économistes des États-Unis sont davantage confiants sur la croissance économique américaine pour 2014. Ils prédisent un taux allant jusqu'à 3% d'ici à la fin de l'année, même si au premier trimestre, ce taux devrait plafonner aux alentours de 1,9% du fait de la rigueur de l'hiver. Le panel des économistes de la National Association for Business Economics, qui a publié ses perspectives, pense également que la croissance se poursuivra en 2015 à un rythme satisfaisant. Le chômage devrait tomber à 6,4% cette année et 6,1% en 2015, ajoutent les économistes. Cinq proches collaborateurs de Bernard Madoff, de financiers américains condamnés en 2009 à 150 ans de réclusion pour une escroquerie portant sur des dizaines d'années et des milliards de dollars, ont été reconnus lundi coupables de fraude à New York. Le directeur des opérations de Madoff, Daniel Bonventre, qui travaillait pour le financier depuis 1968. Deux responsables comptes clients et deux programmateurs informatiques ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation retenus contre eux, notamment de fraude boursière et entente pour tromper la clientèle. Le procès a duré 5 mois et les peines seront prononcées fin juillet. La confiance du consommateur américain a fortement rebondi au mois de mars, à la faveur d'une perception plus favorable du marché du travail et de l'économie en général. L'indice de l'Institut de conjoncture, Conference Board, mesurant la confiance des consommateurs, est ressorti à 82,3 ce mois-ci, contre 78,3 en février, bien au-delà du consensus qui visait 78,5. Par ailleurs, le département américain du commerce a annoncé que les ventes de logements neufs ont baissé plus que prévu en février, confirmant le ralentissement du marché. À l'origine de cette baisse, supputent les analystes, la hausse des taux de prêts immobiliers, l'envolée des prix et le déficit persistant de logements disponibles sur le marché.
Merci Michel. Et enfin, comment un jeu électronique peut-il valoir des milliards de dollars? Eh bien, quand les jeunes sont accros au jeu, comme c'est le cas pour Candy Crush Saga, le jeu mobile blockbuster du groupe irlandais King Digital Entertainment. Le groupe fait son entrée en bourse à Wall Street cette semaine et, de l'avis des experts, la valorisation globale du dossier pourrait atteindre 7,6 milliards de dollars. Encore faut-il que King Digital Entertainment puisse convaincre les investisseurs que son modèle est solide, alors que les revenus et le résultat du groupe sont extrêmement dépendants de son jeu phare, Candy Crush Saga. Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.